Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical. Et ce, pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi, pour pouvoir comprendre par soi-même. Et surtout, des propositions pour modifier ces schémas de pensée. Réfléchir différemment. Réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi, pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock et dites-lui s'il vous a plu pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Bon, ma Clotilde, vraiment, je suis vraiment trop contente qu'on se parle parce que ça fait longtemps qu'on discute comme ça, qu'on sait que l'une et l'autre existent et qu'on, voilà, qu'on se disait qu'on aimerait bien se parler plus. Et en fait, c'est difficile de trouver le temps. En plus, moi, c'est vrai que, tu vois, au début, quand j'ai repris le podcast en septembre, là, je me disais, il faudrait que j'aille voir les gens. Et je crois que je t'ai demandé où t'habitais. Tu me disais, je suis du côté de l'île sur la Sorgue. Et j'étais là. Ok, alors.
Est-ce c'est que pas ça la porte à côté.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport? Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une usine à gaz. Enfin, du coup, ça devient vraiment compliqué. Et puis après, les coûts et tout, bon, bref. Donc là, c'est pas grave, on se parle comme ça et c'est super cool. Donc là, comment ça se fait que tu étais dispo le midi? C'est quoi, toi, tes journées, là?
Alors, je m'organise un petit peu comme je veux. D'habitude, le midi, c'est réservé au sport avec mon mari. Mais voilà, je fais exception quand on ne peut pas s'arranger autrement. j'essaie de trouver du temps libre un peu comme je peux.
Ouais, Tu gardes toujours tes jumeaux? Tes jumeaux?
Alors non, ils sont chez Nounou. Donc, le matin, en général, je bosse au garage entre midi et deux au sport. Et puis l'après-midi, voilà, je garde un petit peu de temps pour faire mes accompagnements à côté, quoi.
Ouais, ok. Ouais, c'est un peu sportif.
Voilà, je bidouille, et puis bon, en général, on n'a pas d'heure, on se couche à pas d'heure, on se lève comme on peut, enfin voilà, c'est notre vie, c'est la vie qu'on a décidé de mener, quoi.
Ouais, et si ça vous va bien pour l'instant, c'est cool, quoi.
Voilà.
Donc, rappelle-moi, donc toi, t'as un aîné?
Alors, j'ai quatre enfants.
Ah ouais, ok.
Donc, un grand de 10 ans, un moyen de 2 ans et demi, et les jumeaux qui ont tout juste un an.
Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta vision de la parentalité, peut-être de la maternité quand tu n'avais pas d'enfant? Et après, sur la question plus spécifique de l'accouchement, tu avais quoi, toi, comme image de ça et comme. Ouais,
Alors,
comme.
j'ai toujours eu une vision extrêmement positive parce que ma mère, voilà, c'était quelque chose de naturel. Elle n'a pas spécialement eu de difficultés pour accoucher. Du plus loin que je me souvienne, mes sœurs, c'était à peu près pareil. Donc, voilà, c'était pas une question qui se posait, en fait. Tu vois, ça faisait partie de la suite logique des choses. Et puis, bon. Voilà, c'est pour ça que ça a été un petit peu la désillusion aussi quand j'ai eu mon premier. Et au final, ça s'est pas vraiment passé comme prévu.
Ok. Parce que ta mère te disait que ses accouchements s'étaient bien passés, mais genre la péridurale c'est super, l'épisiotomie c'est cool, c'est pratique, c'était ce
Alors,
discours-là.
non, pas du tout, parce que, alors, je ne sais pas pour les premiers, mais il me semble que ma mère, elle a toujours accouché, entre guillemets, naturellement, en
Ouais.
milieu hospitalier, certes, mais sans intervention.
D'accord.
Pour moi, je crois que elle est arrivée à la mater et 20 minutes plus tard, elle a poussé 2 fois, j'étais là, quoi. Donc,
Ok, trop bien.
donc voilà, non, ça s'est quand même relativement bien passé.
Ok.
Et puis pareil pour l'état de grossesse, enfin, je l'ai toujours entendu dire, oh là là, moi, qu'est-ce que j'étais bien enceinte, j'aurais pu rester enceinte toute ma vie. Donc voilà, j'avais vraiment un regard hyper positif sur le truc, quoi.
Ok, d'accord. Et donc vient un jour où tu te dis, ok, bah alors moi aussi j'y vais.
Ouais, alors ça a été un petit peu surprise, du coup,
Ouais.
parce que initialement, mon grand Eli n'était pas trop prévu au programme, mais on va dire qu'il s'est invité, puis on a fait le choix de qu'il reste avec nous. Et ça a été un petit peu. Alors j'étais jeune, hein, parce que j'avais 19 ans quand je suis tombée enceinte. Donc du coup, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis laissée porter par le corps médical. Et le fait est que Ellie était un bébé qui est resté en siège. Donc voilà, bon, j'étais jeune, j'étais peu informée. Je ne pensais même pas aller m'informer ailleurs d'ailleurs. Donc je me suis laissée porter par le corps médical. On a tenté la version. Et puis ben, la version n'a pas fonctionné, bien entendu. Donc césarienne programmée à 39 semaines. Voilà.
Ok, à 19 ans.
ouais, bon, j'en avais même pour le coup, mais oui. Ouais.
Ouais, d'accord. Ok.
Voilà.
T'as vécu un peu d'infantilisation ou pas? Je veux dire, plus que n'importe quelle personne, mais on entend parfois, enfin, quand en plus t'es jeune, enfin, t'es vraiment traité comme si t'étais la dernière des demeurées. Est-ce que t'as ressenti ça ou pas, toi?
Alors, pour le coup, pas tellement.
Ok.
Après, j'en reviens toujours à la même chose, c'est que je trouve que le positionnement qu'on a va conditionner aussi la manière dont les gens vont être avec nous. C'est
Ouais.
vrai que moi, j'ai quand même une formation scientifique initiale. Donc, j'ai besoin que les choses soient claires, j'ai besoin qu'on parle, je pose des questions. Enfin, voilà, même si je ne suis pas allée chercher plus loin à cette époque-là parce que j'étais jeune, j'ai pas eu ce rapport de petite fille.
Ok.
Ouais, non, j'ai pas eu ce sentiment-là, tu vois, pour le coup. Du coup,
D'accord.
c'est un peu positif.
Ouais, ah ouais, grave. Ok, donc césarienne programmée, et comment t'as vécu cette césarienne?
Alors, césarienne qui s'est très bien déroulée sur le plan médical.
Ouais, bah super.
Par contre, voilà, effectivement, sur le plan émotionnel, ça a été beaucoup plus compliqué, on va dire. J'ai eu du mal à tisser le lien avec mon bébé. J'ai pas pu le toucher pendant plusieurs heures. Alors que, ouais, bah, et ça, comment dire, je l'ai compris, je l'ai analysé que plus tard, en fait. Je crois que j'étais remontée à 13h30 en chambre, tu vois, j'ai pas pu le prendre avant 19h30. Il y avait ma mère, il y avait. Voilà, je lui ai dit non, mais c'est bon, garde-le, j'ai bien le temps d'en profiter plus tard. Voilà, donc la mise au sein s'est faite tardivement aussi. Et le lien a été compliqué. Heureusement que j'ai eu l'allaitement, au final, qui nous a quand même bien soudés. Mais je le dis souvent, on ne se répare encore aujourd'hui, en fait. Parce que ça s'est imprimé dans ses cellules, il le crie dans son tempérament.
Ah ouais, oh là
Et
là.
moi-même, en tant que mère, j'ai toujours fait mon rôle de mère. Voilà, j'ai toujours été là, très présente pour lui, etc. Mais c'est vrai que je me suis sentie légitime dans ce rôle-là qu'à partir de la naissance de mon deuxième. Et on a toujours ce rapport un petit peu particulier avec Ellie. Je trouve que j'en discutais avec une autre doula, tu vois, c'est rigolo, mais je trouve que les premiers enfants. Souvent quelque chose à nous apprendre et éveille en nous un sentiment. Enfin, je t'entendais parler aussi de la relation que tu as avec ta première, etc. Et je trouve que chez mes amis, chez toutes les personnes que j'accompagne, chez toutes les doulas, je trouve que le premier enfant va chercher des trucs extrêmement viscérales, tu vois.
Ah ouais.
C'est un peu ça avec mon fils. On s'aime autant qu'on s'exaspère, en fait.
Ah ouais. C'est tellement dur. Moi, enfin, tu vois, j'ai pas envie de voir ça comme une fatalité. Genre, c'est forcément ton premier enfant et ça va forcément être, je sais pas si c'est conflictuel le mot, mais tu vois, difficile. Je peux pas me résoudre à ça. Franchement, ça me fait trop de peine. Et alors, tu vois, la mienne, elle a que 5 ans et demi. Donc, si ça se trouve, quand elle aura 10 ans, je me serais fait une idée, enfin, une raison, et voilà. Mais, je sais pas. Parce qu'en plus, toi, du coup, ton deuxième, il est arrivé genre 8 ans plus tard. Donc, quand tu dis que tu t'es senti légitime dans ton rôle de mère, enfin, genre, t'as eu 8 ans où tu marchais à côté, quoi.
Bah, puis c'est une période où je me suis construite aussi en tant que femme, vu que bon, il y a eu une séparation avec le papa. Enfin voilà, ça a vraiment été une grosse période effectivement de chamboulement. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, je me suis cassée la
Ouais.
gueule, je me suis relevée.
Ouais. Ouais, parce que du coup, tu l'as eu, enfin, tu l'as élevé beaucoup toute seule, ton premier, vous êtes séparés.
Alors, ouais, garde alternée. Par contre, effectivement, alors, je crois que c'était jusqu'à ses 1 an. Le papa était en déplacement, donc c'est-à-dire que je l'avais, enfin, il était avec nous que le week-end. Donc, effectivement, on a eu une relation très fusionnelle au début avec Ellie. Et puis, par contre, son papa a toujours eu un petit peu du mal à trouver sa place auprès de lui. Et encore aujourd'hui. Mais voilà. Non, après, on l'avait une semaine sur deux, donc c'était à peu près OK sur ce point. Ouais.
Ouais. Bah, tu vois, c'est marrant, j'en parlais avec une amie avec qui je suis là, on est dans un séjour, bref. Et on parlait de ça, du rapport des pères avec leurs enfants et du fait que souvent, eh ben, le lien il se fait difficilement, mais en fait, enfin, vous n'êtes pas là ou vous êtes juste moins là. Oui, vous partez le matin à 8h30, oui, vous rentrez à 20h, pour vous, c'est normal, mais en fait, votre enfant, il ne vous voit pas. Donc, enfin, on ne peut pas attendre d'une relation qu'elle se tisse quand il y a pas de présence et que du coup il y a pas d'échange. Enfin, je trouve ça, tu vois, et c'est pas contre les pères. Bon, là je le dis pas en frontal, j'ai pas envie qu'on se dispute.
Ah, ouais, après, sachant que je suis d'accord, oui et non. Parce que tu vois, en comparaison, mon mari travaille énormément.
Ouais.
Donc, on a peu de temps avec nos enfants. Mais par contre, c'est du temps de qualité.
Ouais.
Donc, et il ne fuit pas face à la difficulté. Il y a ça surtout qui est important, c'est que les premiers temps, les papas qui n'assument pas pleinement ce rôle ont du mal à se sentir. Ben, ils se sentent très dépassés face aux pleurs du bébé, et ils ont tendance en fait de ben, vas-y, toi, tu sais, gère.
Ouais.
Donc je pense que ça a un impact, ça aussi.
Bah après, oui, évidemment qu'on sait et qu'on gère parce que nous, on les a H24 plus ou moins. Donc, évidemment qu'on sait mieux, mais à un moment donné, si tu veux apprendre, il faut le faire aussi, quoi. C'est
C'est
clair.
ça, c'est ça.
Ok, donc ton premier, d'accord. Et donc tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui tu fondes un
Oui.
foyer et tu te dis, on va faire un autre enfant.
Voilà, c'est ça, feu.
Après feu vert.
Je tombe enceinte. Bah, ça a été une histoire assez forte dès le début. Enfin voilà, c'était évident. On s'est rencontrés, on se connaissait depuis toujours. Et puis voilà.
Bien.
Et du coup, bah, très vite, désir de grossesse. Je suis tombée enceinte après 3 mois, je crois. Et c'était après la période Covid. En plus,
Ah
donc
oui,
moi déjà j'avais cheminé un petit peu en dehors même de cette rencontre-là. Je savais que s'il y avait des autres enfants un jour, clairement ce serait pas du tout la même chose. Je
ouais.
ne voulais absolument pas revivre cette hyper médicalisation-là. Et encore plus là du coup après le bazar du coco, n'est-ce pas, où on entend des histoires absolument. Enfin voilà, les femmes qui accouchaient seules avec un masque sur le nez. Enfin je me suis dit, mais comment c'est possible, tu
Ouais,
vois.
c'est clair.
Donc voilà, encore plus après cette période-là, en fait, on s'est dit mais c'est juste pas possible. Je peux pas mettre un pied à l'hôpital, en fait. Même si c'était pas forcément. Moi, j'aurais subi, une fois de plus, enfin, tu vois, en tant que femme, on est habitué à ça. Mais rien que l'idée que des mains en plastique touchent mon enfant, mettent la lumière dans les yeux, qu'il naisse dans le froid, qu'on l'aspire, j'en étais tout retournée, quoi. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. C'est
Ouais.
pas possible. Voilà, et puis j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui était totalement novice, vu qu'il n'avait pas d'enfant encore, et qui m'a dit, OK, je te fais confiance.
Ah ouais, il n'avait
Et
pas
on a eu.
les idées de se dire l'accouchement c'est tellement dangereux, il faut absolument l'hôpital.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on a eu la chance de tomber, de trouver à côté de chez nous une sage-femme à domicile qui accepte de nous suivre malgré l'antécédent d'utérus cicatrique, blablabla.
Oui, c'est fou ça.
Voilà, donc ouais, bon, alors ça a daté de 8 ans en arrière, hein, mais effectivement, on a eu la chance, on a eu la chance, elle nous a apporté de sa confiance, quoi,
Ok.
c'était formidable. Donc voilà, on est parti là-dedans. Donc Aimée est née dans la piscine au milieu de notre salon, c'était trop bien.
Donc cool. Et ça s'est bien passé. La femme était cool.
Alors, ouais, ça fait partie de ces vraies femmes sages qui savent maintenir l'espace en fait. Et hands off, voilà.
Il faut qu'il
C'est-à-dire que je crois que juste à un moment donné, elle m'a proposé un toucher vaginal parce que je pense que j'étais sur la période voilà, délicate où j'avais besoin d'eux. Donc, et puis elle voulait aussi voir un petit peu où ça en était. Mais sinon, rien du tout, tout du long. Elle a juste écouté le cœur du bébé, tu vois, quand elle est arrivée 1 heure avant qu'il sorte, voilà, sur une contraction, voir si c'était OK. Et puis, bah, elle était assise sur une couverture dans un coin de la pièce. Voilà. Donc, elle était juste là. Elle nous a bercé de sa confiance, comme je le dis souvent. Et puis, c'est entre guillemets grâce à elle aussi qu'on a pu vivre la suite. Parce qu'on n'aurait pas eu cette expérience-là où on a fait tout nous-mêmes, au final.
Oui, bien sûr.
Qu'on se serait certainement peut-être pas senti de le faire pour le reste.
Ouais, ok.
Voilà, donc ça s'est bien passé. Par contre, ça a été l'un de mes accouchements les plus intenses,
Ok.
dans le sens où j'avais rompu à 5h30 du matin. Donc, un premier travail, vu que mon col n'avait jamais travaillé avant. Et je l'ai mis au monde à 19h30 le soir. Donc ça a été quand même, voilà, j'ai eu gros du travail qui s'est mis en route, je crois, sur le coup de 11h ou midi. Déjà à ce moment-là, je vocalisais. Voilà. Alors sachant que j'ai un gros seuil de tolérance à la douleur, mais clairement, ouais, j'en garde vraiment une souvenir de grosse intensité. Et puis sur la sortie aussi, j'avais tendance à. Enfin, que ce soit sur la fin ou sur la sortie d'ailleurs. Vu que tu sais pas à quoi t'attendre, que c'est ta première expérience, je pense que j'étais encore dans le truc de je suis comme ça avec la douleur. Tu vois, je rentre pas, mais j'essaie de l'affronter en fait. Et clairement, je pense que j'ai essayé de pousser. Je pense que, tu vois, j'ai fait des trucs qui, avec le recul, font que voilà, j'ai déchiré légèrement et que clairement, quand il est passé, j'ai cru que j'allais crever. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va tout déchirer là-dedans, tu vois. Je l'ai senti en plus vraiment descendre dans les fesses. Moi, je me suis dit, ça y est, je me fais dessus. Enfin, bon. Et du coup, bon, il est sorti, mais effectivement, avec le recul, ouais, j'ai analysé ça. Mais
Ouais.
c'était très intense, c'était très intense,
Ouais, le type marathon, quoi.
ouais. Alors après, j'étais fraîche, hein, mais c'est vrai qu'en termes de gestion, enfin voilà, j'étais bien que à quatre pattes. Il a fallu que je vocalise du début jusqu'à la fin. La piscine avec l'eau chaude a été franchement d'un secours monumental. Et aussi, ce qui a fait que ça a grandement ralenti, d'ailleurs, c'est grâce à la sage-femme que ça s'est accéléré sur la fin, c'est que je ne sentais plus que j'avais envie d'aller uriner. Et je pense que ma vessie, parce qu'en fait, j'ai eu des poussées réflexes assez tôt. Je pense sur le coup des 6h30. Sauf que j'avais la vessie qui était pleine, en fait. Donc, je pense que
Eh
c'était
oui, bien
ça qui
sûr.
le bloquait. Et effectivement, quand elle a vu que... voilà, elle me dit, t'es sûre que t'es pas allée aux toilettes, là, récemment? Tu devrais peut-être y aller. Et en fait, ouais, je suis allée faire pipi. Et là, clairement, j'ai eu deux contractions de folie. Ou deux photos, d'ailleurs, qu'elle a prises au vol où j'agrippe mon mari. Où je suis en mode... Et ouais, il est sorti 1 demi-heure plus tard. Donc,
Ouais, elle a eu la présence
voilà,
d'esprit que toi t'avais pas, quoi.
Ouais, c'est ça, des petites choses comme ça qui ont fait que. Mais du coup, voilà, très intense et je vais aller chercher dans mes retranchements.
Ouais. Et ton placenta?
Le placenta est sorti assez rapidement après, donc une fois que je l'ai mis au monde, je suis sortie de la piscine, je suis allée me mettre au chaud dans mon lit et en fait, voilà, j'ai un caillot qui est sorti et puis l'autre truc qui est sorti, c'était le placenta, quoi. Donc j'ai rien fait, j'ai pas poussé, j'ai pas. Voilà. Ça s'est fait de manière totalement naturelle. Après. Te dire le volume sanguin, je ne saurais pas te dire. Par contre, effectivement, quand j'ai voulu aller me doucher après, je me souviens, j'ai eu un petit coup de donc mon mari qui est venu me filer un truc à bouffer, j'étais assise dans la douche. Donc ouais, je pense que j'ai dû perdre un petit peu plus que de normal et j'étais un petit peu chaos quand même. Enfin, rien à voir par rapport au dernier, quoi.
Ouais. Spoiler. Génial. Et donc tu sors de là, de cet enfantement, et est-ce que tu ressens un truc genre de guérison de ton premier? Est-ce que tu as ce truc-là, ou juste c'est simplement deux histoires différentes et c'est...
Ben non, totalement, totalement. Et le fait, déjà, cet amour immédiat, en fait, quand tu le prends, tu dis, putain, on l'a fait, enfin, c'est une bouffée d'amour, une bouffée de confiance, une bouffée de tout ce que tu veux, en fait. Et du coup, je le dis souvent, mais devenir mère d'aimer m'a guéri et m'a fait naître mère, pour le coup, et devenir meilleure mère pour Ellie aussi. Ouais.
Est-ce qu'on se dit que... Parce que je partage beaucoup des choses que tu dis. Moi, je me suis sentie mère quand même pour ma première, mais enfin, j'étais complètement traumatisée, puis la dépression du postpartum et tout. Et la naissance de ma deuxième m'a fait prendre conscience, enfin, m'a fait tout shifter, en fait, et de me dire, ah oui, en fait, non, j'étais traumatisée. Et en fait, la dépression, c'est ça qui s'est passé. Et en fait, cette première enfant, bah, en fait, elle était qui elle était. Et c'est aussi peut-être pour ça que moi, j'ai eu des difficultés. Enfin, bref. Et clairement, c'est cette deuxième expérience qui m'a guérie. Et c'est ce que tu dis aussi. Est-ce qu'on se dit que, eh ben, il y a des personnes qui guérissent jamais parce que, bah, elles vivent que des accouchements dans le système, et elles restent à côté de... Moi, j'ai un peu cette image que ça m'a fait venir quand tu disais ça tout à l'heure. Que oui, que tu étais à côté de ta maternité, en fait, et que tu...
Je faisais tous les, enfin, je faisais les choses parfaitement, mais peut-être mécaniquement, en fait. Il n'y avait pas le cœur, il n'y avait pas, c'était pas, c'était, ouais, si, c'était quand même instinctif, mais pas aussi naturel, tu
Ouais.
vois,
Mais du coup, est-ce qu'on se dit qu'il y a des
je pense.
personnes qui ne guérissent jamais de tout ça parce qu'elles ne font que d'accoucher à l'hôpital, ou qu'on leur impose des césariennes ou des trucs comme ça, et qu'au final, bah, elle reste avec un...
Après,
Comment on appelle ça?
certainement, tu vois, mais ça fait partie de l'illusion collective. Et ça, tu ne pourras pas tout remplacer. Mais effectivement, en tant que femme, on est tellement habitué dès la naissance, en fait, à subir des trucs et qu'on nous fasse passer pour ça pour normal, que bah, je pense qu'on si on ne se pose pas de questions, en fait, si tu vois pas, tu vois, souvent, je reçois des messages qui me disent, ouais, mais tu sais, l'enfantement libre, on dit qu'il faut de l'intimité, il faut machin, mais tu postes quand même, tu montes quand même des vidéos, machin. Oui, mais le truc, c'est qu'on est obligé d'en passer par là pour rééduquer, pour
Ben
reconnecter les gens à leur intuition, en fait, et pour leur montrer que ça existe, parce que sinon, effectivement, le truc, le chemin tracé, c'est l'hôpital, c'est la médicalisation, c'est on vous a sauvé, c'est.
Et peut-être que la maternité normale, et donc là je mets des guillemets, je mets beaucoup de guillemets pour les personnes qui écoutent, peut-être que pour la société, la maternité normale, bah, c'est une maternité où t'es pas 100% connecté à ton enfant, t'es pas hyper fusionnel avec ton enfant, et donc ça, on est bien d'accord que c'est la normalité, hein. Parce qu'il faut pas trop allaiter, il faut pas trop, il faut que ton enfant, il aime bien se détacher de toi et qu'il soit à l'aise avec tout le monde. Et si c'est pas le cas, c'est bizarre. Et bref. Mais en fait, oui, c'est vrai, c'est ça, que c'est vachement ça.
Bah,
On
y a l'idée préconçue de
normalise.
tu enfanteras dans la douleur, et puis effectivement, clairement, dans la société dans laquelle on est, il n'y a rien qui est fait pour que l'enfant ait le lien avec sa mère qui soit préservé. Et, voilà, quand tu te dis qu'à 2 mois et demi, tu es censé reprendre le taf, déjà, enfin, à quel moment tu confies
Ah
une
ouais.
nourrisson de 2 mois et demi à quelqu'un d'autre?
Ouais. Et
Et
parce que...
pourtant, y a plein de, je juge pas, hein, il y a plein de personnes qui sont obligées, mais à quel moment on s'est dit que c'était normal, en
Ah
fait?
non, mais bien sûr, mais je pense qu'on est complètement d'accord. Le problème, c'est le système. C'est pas les
Mmh.
gens qui
Tout à
se
fait.
disent, bah oui, je reprends le travail à 2 mois et demi, c'est normal. C'est des gens, enfin voilà, qui suivent ce qu'on leur dit et qui voient pas forcément le point, et c'est pas de leur faute. Mais parce que c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, je trouve. Il y a vraiment ce truc, on n'est pas toutes les mêmes mères, et on n'a pas toutes le même degré de fusion avec nos enfants. Et enfin, il y a vraiment ce truc de... Enfin, moi, par exemple, je suis un peu un ovni parmi mes copines, où, bah, enfin, voilà, on me comprend pas. Parce que bah, je suis fusionnelle avec mes enfants. Pour moi, effectivement, la crèche à 2 mois et demi, c'est pas possible. De la laisser à une nounou que je ne connais pas, ce n'est pas possible. Et j'ai plein de copines pour qui c'est complètement normal, et c'est complètement, bah, écoute, oui, bah, ça va. Donc je ne dis pas qu'elles ont tort et que ce sont des mauvaises mères, mais je questionne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce truc de... Oui, d'un lien qui est peut-être
Le système nous a
moins
déconnectés.
intense,
Donc,
et... Ouais.
Donc forcément, si déjà à la base, tu n'as pas eu une rencontre préservée avec ton enfant, ça, pour moi, je reste persuadée que ça a forcément un impact sur la suite. Alors,
Tout
tu
à
peux
fait.
avoir un accouchement traumatique et être très maternante et avoir une super relation avec ton enfant juste après. Mais c'est vrai que là, quand j'entends, tu vois, tout ce truc de oui, la dépression postpartum, c'est normal, faut en parler. Alors, c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus. Mais à aucun moment on dit c'est pas normal d'être en dépression postpartum ou ce n'est pas normal de... Enfin, on normalise le fait de ne pas aimer de suite son enfant ou de pas être dans le lien de suite avec son enfant. Ben non, c'est pas quelque chose de normal. Alors, c'est
C'est
OK
banal.
que ça arrive et c'est normal que les femmes ressentent ça du fait qu'elles aient subi des choses avant et qu'on leur ait volé la rencontre avant, en fait. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu cette rencontre avec ce shoot d'ocytocine qui est responsable de l'attachement, etc., ben forcément, il y aurait beaucoup moins de femmes qui seraient en difficulté pour le lien d'attachement avec leur enfant, pour la mise en place de l'allaitement et la dépression postpartum après, etc., etc., quoi. Donc, je suis heureuse qu'on en parle, mais de plus en plus, mais c'est vrai que ça me laisse un côté amer sur le fait de trucs... De se dire qu'on banalise le truc alors qu'en fait c'est à cause de ce qui se passe à la base, au commencement, quoi.
Ouais, il faut recentrer le débat en fait, le débat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que c'est normal ou... Enfin, est-ce que ça existe ou pas la dépression du postpartum? C'est oui, ça existe, mais pourquoi ça existe? Et enfin,
C'est ça.
c'était comme, je sais pas si tu avais vu il y a quelques mois, il y avait eu cette étude où je sais plus exactement ce que c'était, ou un article qui disait que il voulait commencer à traiter la dépression du postpartum par des médicaments. Ou non, c'était pas ça la question. Je suis en train de très mal le formuler, donc le prenez pas au pied de la lettre ce que je suis en train de dire. Mais enfin bon, bref, il y avait un truc de se dire, il faut normaliser la prise de médicaments pour la dépression du postpartum. Et moi, je disais, mais en fait, c'est pas ça le point. Enfin, le point, c'est le système cause des dépressions du postpartum. Et en fait, on pourrait éviter les dépressions du postpartum. Venez, on évite les dépressions du postpartum plutôt que de vouloir donner des médicaments. Enfin,
Bah, tu sais, on va plus
curatif,
loin.
on fait du préventif.
C'est le système de soins européen qui est comme ça, en fait. Hein. C'est l'allopathie, c'est que plutôt que de chercher l'origine du problème, eh ben, on va mettre de la médication qui va atténuer les symptômes. Voilà.
C'est vrai que t'es naturopathe, toi aussi.
Alors moi, de métier, je suis diététicienne nutritionniste. Donc j'ai fait un DUT génie biologique. Et ben, voilà, j'en suis arrivée là.
Ok. Ok,
Donc
hyper.
effectivement, j'ai des connaissances quand même assez poussées en physiopathologie et en compréhension du fonctionnement du corps humain, quoi.
Ouais. Oui, parce que enfin moi j'ai fait mes études de net, enfin j'ai suivi un cursus de naturopathie et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça, donc il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord naturo et qui me moi mais, enfin voilà je connais pas dedans, mais enfin c'est vrai que ce truc de se dire on prend pas soin de nous à la base de par notre mode de vie, notre hygiène alimentaire, notre tout ce que, enfin notre hygiène mentale, enfin tout ce que tu veux. Et donc après, ben oui, on vient nous donner des médicaments, mais enfin peut-être qu'il faudrait faire autre chose et juste ne pas être malade. Et enfin voilà.
Tu sais, je vais te raconter.
Et c'est systémique, hein, c'est pas contre les gens que je dis.
Ouais. J'ai eu des patients à l'époque, des fois qui arrivaient avec 15 ou 20 traitements. Quand je prenais la liste, je dis, bon, alors ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pourquoi? Il y a des trucs qu'ils ne savaient même plus, en fait. Et quand tu regardes, ben, tu as des médicaments qui sont là pour éviter les symptômes d'un autre médicament, enfin, les effets
Voilà.
secondaires d'un autre
Ouais.
médicament, et ainsi de suite. Et ils se retrouvent avec. Voilà. Bon, après, on ne refera pas le système, hein, mais effectivement. Il y a le système et puis il y a la responsabilité de chacun au milieu de ça. Qu'est-ce que je décide d'en faire? Bon, c'est pareil, si je te parle de mon cursus enfin, voilà, de diététique, on nous apprenait des trucs. Les profs nous disaient typiquement, on sait que ça fait 20 ans que voilà, on a 20 ans de retard. Ça, c'est obsolète. Mais on est obligé de vous l'apprendre comme ça quand même. Et le problème, c'est que c'est pareil chez les médecins, c'est pareil. Donc si à un moment donné, et encore plus chez le médecin, je pense, parce qu'il y a un petit peu quand même voilà, la blouse blanche, on a fait 10 ans d'études. Le problème, c'est que la médecine, la diététique, le corps humain, tout, c'est en constante évolution. On fait des découvertes de chaque instant, en fait. Donc si tu ne remets pas à jour tes connaissances régulièrement,
Bah, tout
ben,
est
tu peux
difficile.
pas. Voilà, puis il y a ça, il y a le fait aussi de traiter chaque partie séparément. C'est-à-dire que enfin, voilà, l'ostéo, il va traiter sa partie, le podologue, il va traiter sa partie, le chirurgien de l'épaule, il va traiter sa partie, mais autant le déséquilibre, il est général, tu vois.
Ouais.
N'oublie qu'on a affaire à des personnes surtout.
Ouais. Et puis le physique, et puis le mental, et puis le culturel, et puis enfin, ouais, c'est clair.
Ça fait.
Bon, eh ben super. C'est
On est
hyper.
parti loin, on est parti loin.
On est parti loin, mais à la fois, enfin, je pense que c'est des sujets dont il faut parler plus parce qu'on en a besoin. Ok, donc tu passes donc ce deuxième enfantement donc, qui te guérit et qui te fait te sentir légitime dans ta maternité. Enfin, ça change beaucoup de choses en toi, donc trop bien. Et donc.
Et donc, bah, il y avait un petit bout d'inachevé quand même, parce que on avait deux garçons. Donc,
Ah.
c'était bon, ben bah, voilà, petite fille quand même. Alors,
Ouais.
mon mari, sur le coup, je venais d'accoucher, il me dit, non, mais allez, on relance direct. Voilà, moi,
Oh.
s'il y en a un troisième, c'est de suite. Je dis, oh, tranquille ou bilou. Je dis, moi, là, tout de suite, je ne suis pas sûre. Mais par contre, parce qu'il me dit, moi, si c'est plus tard, c'est mort. Je dis, oh, moi, si c'est plus tard, peut-être j'en aurais envie plus tard, mais pas maintenant. Et puis au final, bon, la vie a fait qu'on s'est dit allez feu, et puis bah, deuxième fois feu, et en fait premier coup bim, et donc on annonçait cette troisième grossesse pour les 1 an d'aimé.
Ok. Oh la
Et
vache.
voilà, et une semaine plus tard, on rappelait tout le monde pour leur dire qu'il
Oh.
n'y en avait pas un, mais deux.
Ah la vache. Attends, comment tu vis ça, toi, de comprendre qu'il n'est pas tout seul, cet enfant, dans ton ventre?
Alors, très bizarrement, on s'en doutait. On est assez intuitif quand même avec mon
Oh.
mari. Ouais, on est assez intuitif. Et puis c'est vrai que voilà, moi je sentais que c'était pas comme d'habitude. Tu vois, j'étais pleine d'hormones. J'étais extrêmement fatiguée, mais à un point où j'étais éclatée. Tu vois, je marchais 20 minutes, j'étais obligée de faire une sieste d'une demi-heure derrière. J'avais beaucoup de nausées, chose que j'avais jamais connue.
Ok.
Et puis surtout, j'avais envie de tuer tout le monde.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, mais point, ouais, mais c'est pas possible, quoi. Et puis voilà, souvent le truc de jumeaux, de bébés. Entre-temps, j'ai acheté une voiture, c'était une 7 places. Enfin voilà, il y a eu pas mal de trucs, tu vois, qui nous ont. Et je me souviens encore la veille du rendez-vous chez l'échographiste, on se regardait dans le lit, on se dit, ah, attends, t'imagines pour le coup, parce qu'on blaguait avec tout le monde, tu vois. Parce qu'on disait, oui, il manquerait plus qu'on nous annonce qu'il y en ait deux. Et la veille, on se disait, non, mais comment on réagit si elle nous annonce que vraiment, pour le coup, il y en a deux, tu vois. Et effectivement, donc on arrive chez l'échographiste le lendemain. Donc elle nous fait son blabla. Oui, peut-être c'est trop petit. Donc si c'est trop petit, si je vois pas, faudra que je passe par voie vaginale, etc. Et en fait, elle a posé la sonde sur mon ventre et la grosse chouette avec les deux belles poches. Et là, du coup, mon mari a fait, oh putain. Elle dit, ouais, effectivement, il y en a bien deux. Donc là, à ce moment-là, ça a été une euphorie la plus totale. Je crois qu'on s'est tapé le fou rire le plus monumental de notre vie. Parce que là, bah, t'as tout qui passe en vue. J'ai dit, putain, au secours. Et puis en même temps, beaucoup de joie. Et puis, enfin, la folie, quoi. Trop de sentiments mélangés, quoi. Donc là, pour l'instant, je pense pas encore à la suite, tu vois. Mais sur le coup, tu te dis, waouh, tornade, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, on est hyper content. Bon, après, forcément, ça chamboule un petit peu l'organisation, mais on est hyper content. Et par contre, très vite, c'est la désillusion pour moi. Parce que, initialement, on s'était dit, s'il y a une troisième grossesse, sachant qu'on avait déménagé, on était sorti du périmètre de la sage-femme, on s'était dit, ben, on fera ça entre nous, quoi. Tu vois, vu qu'on se sentait, vu que. Mais par contre, voilà, mon mari se sentait pour un. Pour deux, voilà, c'est. Et puis de suite, tu rentres dans un truc. Enfin, dès qu'on t'annonce, en fait, tu mets le doigt
Ah
dans un engrenage qui te dépasse, mais totalement. C'est-à-dire que t'en es même pas au stade que ça se voit, que déjà, on te parle de protocole, on te parle de risque, on te parle de pathologisation. Enfin, bon, c'est ça. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais, en fait, quoi. Donc, hyper contente d'avoir, je me sens voilà, vraiment privilégiée et bénie d'avoir ces deux enfants qui grandissent en moi. Par contre, c'est vrai, je me dis, mais wow, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Là, je vais m'embarquer dans un truc où je suis plus du tout maîtresse de ce qui va se passer dans mon corps et pour mes enfants. Et voilà. Donc, on avance, on chemine un petit peu comme ça.
Et du coup, genre, t'as plein, pardon, t'as deux fois plus d'examens, des échos tout le temps et tout, c'est ça ou?
Alors, pour le coup, moi, c'était, on va dire, la grossesse gémellaire la moins compliquée, dans le sens où c'est des bibis, donc c'est-à-dire deux placentas et deux poches. Voilà, donc en gros, c'est deux fois un bébé, c'est ce qui présente le moins de complications, donc c'était OK. Par contre, effectivement, ben, surveillance un petit peu plus importante. Donc, pour le coup, moi, j'avais conservé un rendez-vous mensuel échographe et un rendez-vous mensuel avec ma sage-femme.
D'accord.
Jusqu'à la fameuse inscription en maternité, blablabla.
OK.
Donc c'était quand même assez soft, on va dire. Alors l'échographe, en fait, à la base était gynéco, mais je la voyais pas du tout pour le suivi gynéco. C'était vraiment que pour les échographies. Donc elle nous parlait forcément des risques, voilà, mais ça, le risque c'est ça. Du coup, ça va se passer comme ça, blablabla. Bon après, elle a fait son rôle de médecin, hein, classique. Et puis, bah, je me souviens que je disais oui, mais non, mais je prenais le contre-pied. Mon mari, à chaque fois qu'il me donnait des coups de coude, il me disait, mais arrête un peu. Je dis, tu verras bien. Enfin, après, elle fait son boulot, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça me mettait hors de moi que, oui, vous me parlez de risque, mais là, pour l'instant, tout va bien. Donc, arrêtez de me parler de
Ouais.
tout ça, quoi.
Alors tu
Ça
vois,
peut aussi bien se passer.
moi je suis pas trop d'accord avec ça quand on dit c'est leur rôle de médecin. Ben non en fait, enfin leur rôle de médecin c'est pas de nous dire il y a que des risques que vos bébés meurent ou que vous, enfin c'est pas ça le rôle du médecin. Le rôle, enfin moi je trouve que c'est hyper biaisé. Ils ont un biais qui est de tout présenter par la pathologisation. Moi je sais pas si ça devrait être ça le rôle d'un médecin. Je sais pas si le rôle d'un médecin ce serait pas de dire alors c'est génial, il y a 99% de chances que ça se passe bien. Dans un infime pourcentage de cas, il pourrait se passer ci ou ça, mais franchement, on s'en parlera plus tard. Enfin, puis il y a aussi des manières de faire. Enfin, je sais pas comment t'as parlé la tienne.
Non, après, elle était quand
Ah,
même
mais.
assez neutre. Mais effectivement, dans le pays de l'utopie, c'est censé se passer comme ça. Sauf que sur le plan logistique, un médecin, il est responsable.
Alors, c'est aussi le problème, bien sûr.
Donc c'est aussi
Des
pour ça
responsabilités,
que
bien sûr.
pour se protéger, parce que s'ils ne t'en ont pas parlé et que le jour J, t'arrive quelque chose, eh ben, tu peux les poursuivre. Donc
Et
effectivement, enfin, voilà, une fois de plus, on en revient au système qui est merdique. Hein,
oui, la responsabilité, c'est pas eux. La responsabilité, c'est toi, c'est ton corps.
Ouais.
Mais
Mais bon,
il
on est
faudrait
tellement
shifter la
habitué.
vérité et tout, je suis d'accord.
Faudrait réajuster, effectivement, parce qu'on est tellement habitué à ce que la responsabilité soit ailleurs. Donc voilà, je continue mon petit suivi comme ça. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Après, bah, c'est vrai que côté nutrition, côté activité physique, bah, je connais quand même bien mon corps, si tu veux. Donc j'avais mis tout en place pour mener une grossesse en santé aussi. J'ai juste eu une alerte, je me souviens plus à combien c'était, peut-être à 33 ou 34 semaines. Non, peut-être avant. Peut-être avant, parce qu'ils n'étaient pas viables encore, parce qu'en fait, je faisais les allers-retours pour mon grand qui était encore chez son papa. Je faisais 2 heures de route par jour. Donc, clairement, la voiture, ça m'a butée. Donc, je me suis retrouvée avec un épisode où j'ai eu pas mal de contractions et des saignements. J'avais passé une nuit à la maternité qui avait juste été enfin, horrible. Horrible, on était en pleurs tous les deux avec mon mari, il est rentré avec les petits, enfin, les têtes dans le. Donc, c'est vraiment là aussi qu'il nous a dit non, mais on veut pas ça, c'est pas possible, quoi. Donc, mis à part ça, sinon j'ai vécu une super grossesse jusqu'à la fin. Tout le monde allait bien, tout le monde grandissait bien. Voilà. Et puis, bah, arrive à la fin, inscription, et c'est là que la machine commence un petit peu à s'affoler.
Parce que donc, où vous en êtes, toi et ton compagnon, du projet dans votre tête?
Alors, bah, à ce moment-là, lui se sentait pas
Ouais.
pour deux, et moi, je savais pas encore. Je me sentais très confiante. Mais c'est vrai que bon, tu sais pas trop, puis je pouvais pas porter la responsabilité sur mes épaules à moi toute seule, quoi, tu vois. Donc on s'était dit, ben, on va choisir le compromis de la mater. Par contre, clairement, ça va pas se passer comme eux, ils ont décidé, quoi. Donc on avait fait un projet de naissance. Alors le projet de naissance, comme je dis souvent, c'est je l'ai même pas donné aux équipes médicales, hein, c'était plus pour nous. Ça nous avait fait cheminer sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on voulait
Ouais.
surtout pas. Et puis mon mari était bien au courant de tout ça. tu vois. On en avait quand même beaucoup parlé. Souvent, il me rassurait d'ailleurs, il me disait, ouais, mais tu sais, je serai là pour maintenir ton espace, etc. Parce que moi, ma plus grosse angoisse, en fait, c'était même pas de mettre au monde mes enfants, c'était comment je vais réussir à le faire. Sachant les conditions, en fait, c'est pour moi. Il me dit, ouais, mais t'inquiète pas, je serai là, je maintiendrai, je répondrai. Je lui dis, oui, mais s'il y a toutes les 30 secondes quelqu'un qui rentre dans la salle pour me
Impossible.
dire toucher vaginal ou pour me dire si, ou un bip là, ou attendez, il y a le capteur, le cœur, on le capte plus, il faut le replacer, machin. Non, mais je lui dis, mais tu vas jamais pouvoir, en fait, ça va pas être possible.
Et puis même après, de ce que je comprenais quand je discutais avec Clara, puis après, quand t'as le premier qui est sorti, eh ben on te laisse 4 minutes pour que le deuxième sorte, sinon ils y vont au scalpel. Enfin, tu vois, à un moment donné, il peut rien tenir du tout, en fait, ton mec, c'est un peu.
Alors, très sincèrement, je n'ai même pas posé de questions quant au protocole qui était appliqué pour les jumeaux dans ma maternité. Parce que pour moi, ça aurait été n'importe quoi, en fait. C'est pas eux qui auraient eu le dernier mot et j'aurais fait comme moi j'avais envie si j'avais mis un P. Tu vois?
Ah
Donc,
ouais.
c'était la question se posait même pas. Par contre, effectivement, oui, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai cherché de la littérature scientifique, j'ai regardé effectivement s'il y avait des témoignages, des récits, je me suis rendue sur des pages de jumeaux aussi pour faire un peu des sondages. Et quand j'ai vu effectivement le taux d'extraction manuelle, le taux de césarienne, le taux de péridurale, je me suis dit, waouh, mais what the fuck, quoi. Et on normalise totalement ça. Alors, bien sûr, les
Bien sûr.
déclenchements, hein, je crois qu'aucune grossesse n'est autant déclenchée que les grossesses gémellaires, bien entendu. Mais ne serait-ce que effectivement l'extraction, la grande extraction du deuxième, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En 4 minutes, tu vas pas chercher le deuxième dans mon utérus, c'est mort, quoi.
Et toi, il te parlait de te déclencher, du coup?
Alors, ils n'ont pas eu le temps.
Ah non. Ok. Alors,
Donc,
spoil un peu, peut-être trop vite.
voilà, l'échographiste m'avait dit, bon, en général, c'est des grossesses qu'on laisse pas aller au-delà de 39 semaines, tu vois. Donc, ça faisait partie des trucs où je disais, où je disais, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Enfin, je vois pas si tout le monde va bien, je vois pas pourquoi on les laisserait pas aller au-delà. Et du coup, donc, j'avais fait mon inscription à la maternité, parce que ben, les sages-femmes, etc., tout le monde avait demandé à ce que ce soit fait. Et en fait, j'ai eu affaire à un vieux dinosaure. À 1 ou 2 ans de la retraite, je pense, qui est juste aux consultations externes et qui ne met même plus un pied dans le service, en fait. Donc, voilà, j'ai même pas cherché à rentrer dans la discussion. J'ai fait mon rendez-vous.
Il a été
Bise.
désagréable, tu veux dire, ou...
Bah, t'es juste un numéro, en fait. T'es
Ah oui,
juste un
d'accord.
numéro, donc voilà, il te dit si c'est bon. Il nous avait aussi, entre guillemets, imposé la fameuse piqûre pour la maturation des poumons. Ce jour-là, par chance, j'étais avec mon mari et je dis bah, non, en fait, on va y réfléchir, vous nous faites l'ordonnance et puis on verra effectivement avec notre sage-femme si on le fait ou pas. Ah, mais bon, mais comment ça? Mais vous savez, on a de très bons résultats par rapport à ça, il y a plus de bénéfices que de risques. Alors, oui, et comment ça se passe? Ben, alors, vous risquez d'être hyper énervé, de ne pas réussir à dormir, et par contre, vos bébés, bon, ben, vous les sentirez moins bouger pendant quelques jours, quoi.
Bah
Mon
super.
mari, en sortant de là, il me dit, non, mais attends, à quel moment on a vu que c'était totalement inoffensif et que voilà, c'est quand même des produits chimiques qu'on t'injecte dans le corps. Et d'autant plus que je crois qu'il m'avait proposé ça. Alors, je saurais plutôt dire, j'ai plus trop les chiffres, hein, donc n'en tenez pas parole d'évangile. Mais je crois que le délai, c'est en dessous de 34 semaines, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'étais à 33 plus 3 ou 4, enfin, tout du style, tu vois. Donc, effectivement, après discussion avec ma sage-femme, je dis, mais moi, je suis pas du tout pour. Et c'était à la suite de la fameuse alerte que j'avais eue. Voilà. Donc, on passe à ça. Il nous recolle un rendez-vous, alors, je pense, pour le délai des 37 semaines d'aménorrhée, le fameux. Entre-temps, j'avais quand même vu l'anesthésiste, etc., qui me dit oui, péridurale, fortement conseillée. Je lui dis oui, bien sûr. Et puis, donc, il me colle ce rendez-vous-là, qui tombait, je crois, le 26 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, je l'avais pris docilement, et puis au final, en y réfléchissant et en discutant avec mon mari, je dis écoute, franchement, je vois pas l'intérêt d'y aller. J'avais déjà la sage-femme, tu vois, qui venait me faire le monito une fois par semaine à la maison. 3 jours après, j'avais rendez-vous avec la gynéco-échographiste pour l'échographie. Franchement, je vois pas l'intérêt de me taper une demi-heure pour aller à Avignon, une demi-heure de retour, la fatigue qui va avec et tout. Je dis, non, franchement, je préfère me reposer, quoi.
Ouais.
Donc, moi, politiquement correcte, j'appelle la maternité pour dire, veuillez annuler ce rendez-vous, je ne viendrai pas. Et ce à quoi la sage-femme me répond, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, si le gynéco vous a donné un rendez-vous, c'est qu'il y a une bonne raison.
Ah là là, ces gens sont insupportables.
J'ai dit, bah écoutez, là, je n'ai aucune raison de venir. Non,
Je
non.
suis
Donc, veuillez annuler
fatiguée.
ce rendez-vous. Et voilà, et ça s'est fini qu'elle m'a dit, bah de toute façon, on ne peut pas vous contraindre à venir. Je lui dis, oui, voilà, tout à fait. Merci, madame, au revoir.
Et vous avez quand même essayé, à un moment donné, arrêtez.
Attends, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Donc ça, c'était le vendredi, je crois. Donc on avait rendez-vous le lundi et au final, tout le week-end, je continue à recevoir les relances d'Optissimo. Ouais.
Doctolib.
Doctolib, pardon. Donc je savais pertinemment qu'elle n'avait pas supprimé le rendez-vous. Donc du coup, le lundi, effectivement, je m'attendais à recevoir un petit coup de fil. Voilà.
Où êtes-vous?
Je m'étais préparée déjà, tu vois. Et au final, c'est mon mari qui remonte à midi qui me dit bah, j'ai le gynéco qui m'a appelé.
Il a appelé un mec plutôt que toi?
Ouais. Alors, est-ce que c'était un acte manqué ou volontaire? Je ne sais pas, mais comment te dire que j'étais remontée à 8000? Donc, il lui a dit en fait, bah, écoutez, je m'entretiens avec ma femme à midi et on vous rappelle, quoi. Et effectivement, on l'a rappelé. Et j'ai dit, non, mais il faut impérativement venir. Donc mon mari lui a posé des questions. Pourquoi voulez-vous qu'on vienne? Ah, mais parce que c'est comme ça, parce qu'il faut qu'on la voie, il faut qu'on programme la suite. Et il dit, mais c'est même pas vous qu'on verra le jour J. Donc il n'y a aucune raison qu'on programme quoi que ce soit, en fait. Là, on est bien, on va bien, elle voit sa sage-femme là, on voit l'échographiste là. Et ça a fini qu'en fait, il s'est braqué et il dit, bon, ben voilà, si c'est comme ça, si vous avez un souci, ben, vous appellerez votre gynéco ou votre sage-femme.
Ah là là.
Donc voilà, je suis pas allée au rendez-vous et ça s'est fini comme ça, quoi. Donc
C'est cool que ton mec il te soutenait comme ça.
voilà, après, franchement, si on a pu réussir à faire tout ça, c'est parce qu'il était extrêmement soutenant. Et même si comment dire, tu vois, je repense au deuxième rendez-vous là, face au gynéco de l'hôpital, il était juste imposant et présent par sa voilà,
Oui.
il était là, il était présent, tu vois. Et rien que ça, rien que le fait de savoir qu'il était derrière moi, et rien que le fait que si je commence à défaillir, que voilà, je commence à faiblir face aux, comment dire, aux,
Recommandations.
ouais, voilà, aux fortes recommandations, je savais qu'il aurait été là pour me soutenir et pour me porter, quoi. Donc voilà, on avait quand même conservé le rendez-vous d'après à la maternité, mais bon, je savais que de toute façon, j'irais pas, quoi. Donc là, c'est vraiment à partir de ces moments-là que petit à petit, on a commencé à plus trop avoir de doutes.
Ouais.
Et mon mari m'a dit, mais en fait, ouais, ça va être compliqué, quoi, d'avoir affaire à des gens comme ça. Alors, je fais pas une généralité, hein, parce qu'aussi bien le jour J, on aurait pu tomber sur des super sages-femmes.
Ouais, mais enfin, c'est à toi de choisir, est-ce que tu as envie de prendre ce risque de tomber face à des gens comme ça?
C'est ça. Et puis bon,
Peut-être que tu n'as pas.
typiquement, j'avais pas demandé les protocoles de la mater, mais bon, en général, c'est accouchement au bloc, c'est péri fortement conseillé, c'est t'as au minimum 4 ou 6 personnes. Enfin voilà, c'est le délire, quoi. Tu vois, donc c'était
Ouais.
vraiment pas ce dont j'avais envie. Et puis j'en avais discuté avec ma sage-femme aussi, parce que je lui avais dit, tu sais, j'ai quand même un seuil de tolérance à la douleur qui est quand même pas trop mal. Donc si ça va vite, jauger quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut, enfin voilà, si je dois rester, si je dois partir. On me disait bah surtout il faut venir tôt du coup, sauf que moi j'avais pas envie d'y aller tôt parce que je savais tout ce que ça impliquait derrière et qu'il y aurait forcément une cascade d'intervention et un ralentissement du travail. Donc je m'étais posé la question des risques-bénéfices. Je dis franchement si ça va vite. Monter dans la voiture et me retrouver en souffrance dans la voiture, je suis quand même pas sûre que. Voilà. Et du coup, ben, on s'est laissé porter comme ça. Jusqu'à la fin, on s'est pas trop projeté.
Ouais, vous vous êtes pas dit, on accouche à la maison.
Non, parce que, et ça, j'insiste dans mes accompagnements là-dessus, c'est qu'une grossesse GMLR, encore plus que pour une grossesse solo. Il faut vraiment laisser la place à l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas comment ça va se présenter en fait. Donc, il ne faut pas se fermer aucune porte en fait. Et c'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que quand je me suis mise en travail, la voiture était chargée au cas où.
D'accord.
Voilà.
Je veux juste rebondir sur ce que tu disais avec ta sage-femme. En gros, tu as dit à ta sage-femme, je suis pas sûre d'aller à la maternité. Et elle te disait quoi?
Bon, après, elle me connaît un petit peu quand même.
Oui, mais elle pourrait te dire, je te connais,
Alors,
je te donne
bizarrement, tu vois, quand on discutait ensemble, elle, c'était pas la sortie du deuxième qui l'inquiétait, c'était surtout la délivrance et le risque d'hémorragie.
le coup.
Mais
Ok.
parce que voilà, c'est toujours pareil,
Bah, c'est leur biais.
la
Ils
vision est
ont...
biaisée, et vu qu'effectivement la cicatrice du placenta est 2 fois plus grosse dans l'utérus et que j'étais multipare, ben voilà, elle s'inquiétait quand même de savoir.
D'accord.
Bon, elle essayait de m'en dissuader comme elle pouvait, mais elle savait bien au fond d'elle, je crois que ça finirait comme ça, quoi.
Okay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.